Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Bonjour ma chère Hélène Zélani.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Des avancées en perspective dans l'enquête sur la disparition de l'avion d'Emiliano Sala. Le corps repéré dans l'épave a pu être remonté à la surface et doit être autopsié. Des rescapés de l'incendie meurtrier dans le 16e arrondissement de Paris vont porter plainte contre leur voisine. Cette femme de 40 ans au lourd passé psychiatrique pourrait être déclarée irresponsable. Et puis attention aux compléments alimentaires à base de plantes. Ils ont beau être naturels, ils ne sont pas sans risque.
Europe 1.
L'épave repose par 68 mètres de fond. L'appareil qui transportait le footballeur Emiliano Sala a disparu des radars le 21 janvier dernier au-dessus de la Manche. Un corps a donc pu être récupéré et remonté à la surface au de Vernuccio.
Oui, c'était la priorité du bureau d'enquête britannique, récupérer le corps découvert sur les images captées dimanche par le chasseur d'épave mandaté par la famille du joueur. Une opération qui s'est déroulée dans des conditions météo extrêmement difficiles, notamment à cause des fortes marées. Elle n'a d'ailleurs pas permis de récupérer l'épave de l'avion. Alors le corps repêché a été transporté à Portland en toute dignité après avoir informé les familles, précisent les autorités. Ce matin, on ne sait pas encore s'il s'agit du corps d'Emiliano Sala ou bien du pilote de l'appareil. Seule l'autopsie permettra de le déterminer. Autre avancée notable, l'opération a pu être filmée par un robot sous-marin. Cela veut dire que des indices précieux pourront être examinés par les enquêteurs.
Aude Vernuccio, et puis on le sait, au moment de l'accident, Emiliano Sala venait de signer pour partir à Cardiff. Le FC Nantes veut obliger le club gallois à honorer le paiement du transfert, soit 17 millions d'euros, et envisage de porter l'affaire devant la FIFA.
Les sous, toujours les sous. La femme de 40 ans maintenant, soupçonnée d'être à l'origine du terrible incendie de la rue Erlanger, est toujours internée à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture.
Oui, le drame avait fait 10 morts, 96 blessés, dont un très grave. Seules 6 victimes ont été formellement identifiées. La suspecte a été hospitalisée en psychiatrie 13 fois en 10 ans. Elle venait de sortir de Sainte-Anne le 30 janvier. Ce matin, Adam, l'un des rescapés de l'immeuble, va porter plainte contre elle. Il explique pourquoi.
Je vais porter plainte contre cette dame, parce que déjà on a tout perdu. J'ai vu la mort, moi j'allais perdre ma vie. Il y a eu un nourrisson qui est mort, il y a eu 10 morts. Si je porte pas plainte, je fais quoi? Je vais lui servir un café et ses médocs? Vous imaginez, les morts, on dit quoi à leur famille? Ah non, on va pas porter plainte? Ah non, on va rien faire? C'est une obligation d'aller porter plainte. Comment on peut dire que cette personne, elle est apte et qu'elle ne présente aucun danger? Est-ce qu'il y avait un suivi? Moi, je veux juste comprendre.
Voilà, un rescapé de l'incendie de Paris au micro Europe 1 de Victor Dolande. Europe 1, il est 7h02.
Une fois encore, la Cour des comptes se penche sur l'argent gaspillé un peu partout en France.
Oui, elle a rendu son rapport hier. Parmi ses préconisations, fermer les petits services d'urgence hospitalières la nuit, car ils sont trop peu fréquentés et coûtent cher. Les communes concernées s'inquiètent, car si ce conseil est suivi, ça pourrait vouloir dire une fermeture totale des urgences, comme dans cette petite ville de la Manche où s'est rendu François Coulon.
Saint-Hilaire-du-Harcouët, 6000 habitants et un hôpital flambant neuf, problème la faible activité de ces urgences. En moyenne 24 entrées par jour, le service est menacé de fermeture la nuit. Marie-Hélène Beignet, aide-soignante force ouvrière.
Une urgence, c'est pas sur rendez-vous. On dit pas de 8h à 20h, vous venez, mais à partir de 20h, vous vous débrouillez, c'est pas possible. Déjà qu'il n'y a plus de médecin traitant, donc en plus s'il n'y a plus d'urgence derrière, les gens vont faire comment? Si quelqu'un fait un infarctus et qu'il veut descendre aux urgences, à 20h, il ne peut plus. S'il faut qu'il fasse 3/4 de route, il a le temps de mourir.
L'hôpital, inauguré il y a 3 ans, a coûté 10 millions d'euros, monsieur le maire Gilbert Badiou.
On voit régulièrement quand même le SMUR qui intervient et on a sauvé régulièrement sur le secteur des personnes. Je n'ose pas penser à ce que ça aurait donné si on avait été obligé de faire venir quelqu'un d'Avranches, 60 km. Je pense que c'est plus la peine d'envoyer le SMUR.
La population redoute de perdre son assurance tout risque la nuit, Katia.
Se retrouver sans rien, un accident grave, n'importe quoi, c'est embêtant. Une femme qui accouche, n'importe quoi, c'est pas rassurant.
En matière de santé vitale, l'argent ne doit jamais être prioritaire, fulmine Katia. Saint-Hilaire-du-Harcouët, François Coulon, Europe 1.
Et puis réaction attendue de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui sera notre invitée à 8h15 sur Europe 1 au micro d'Audrey Crespo-Mara.
Et elle pourra aussi revenir sur les derniers chiffres de l'épidémie de grippe. Déjà plus de 1000 morts selon l'Agence sanitaire Santé publique France, tous âges confondus. Les hospitalisations concernent principalement les plus de 75 ans.
Cette fois, ce sont les jeunes que va écouter le président Macron.
Oui, nouvelle étape du grand débat en Saône-et-Loire. Aujourd'hui, à partir de 15h, le chef de l'État va échanger avec un millier de 15-25 ans venus du Morvan sur les études, l'emploi ou encore la citoyenneté. En tout cas, le soutien aux Gilets jaunes ne faiblit pas. Il est même en hausse selon le dernier sondage YouGov publié ce matin, plus 2 points à 64%. Les commerçants bordelais, eux, en ont assez des manifestations qui dégénèrent chaque samedi. Leur chiffre d'affaires est en chute libre et pour tout arranger, la grande braderie d'hiver, qui se tient d'habitude le week-end, a été décalée par mesure de sécurité. Reportage de Stéphane Place.
Allez, messieurs, allez, allez, allez. Des marchands qui aident le client, des étals déployés sur environ 5 km dans ces rues du centre de Bordeaux, des rabais allant souvent jusqu'à 60-70% et une nouveauté dont se seraient bien passés les commerçants. Pour la première fois en 30 ans, cette braderie s'arrêtera vendredi soir. Céline Lavergne de l'association des commerces bordelais, la Ronde des quartiers.
En concertation avec la préfecture et la mairie de Bordeaux, nous avons décidé de ne pas mettre en péril les bradeurs et les commerçants le samedi, de sorte à éviter tout mouvement de foule éventuel qu'il pourrait y avoir avec les manifestations, et donc de décaler la braderie sur 3 jours toujours. Il valait mieux sauver les meubles, même si ça n'équivaut pas un samedi.
Alors c'est vrai, la braderie a commencé un jour plus tôt, hier mercredi, mais ne pas pouvoir la prolonger samedi, c'est synonyme d'une perte de recettes importante pour José qui vient ici vendre ses jeans.
Là, cette année, il n'y aura pas samedi, malheureusement. C'est la plus grosse journée. Ça me prive d'un chiffre d'affaires qui est important. Le problème, c'est qu'au niveau du commerce, oui, ça devient compliqué.
Ici, plusieurs commerçants, parfois les larmes aux yeux, s'interrogent sur la survie même de leur entreprise dans les mois à venir. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Theresa May de retour à Bruxelles. Aujourd'hui, la première ministre britannique va tenter de renégocier le traité de retrait de l'Union européenne dans un climat de tension. Et puis Alstom tire les conséquences du veto de la Commission européenne. Le groupe français renonce à son rapprochement avec les activités ferroviaires de l'Allemand Siemens. Une décision incompréhensible et un grand gâchis, disait hier soir sur Europe 1 le PDG du groupe, Henri Poupart-Lafarge.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal d'Europe 1. Plusieurs journalistes français, notamment Didier François, vont se retrouver face à leur bureau. Le djihadiste Mehdi Nemmouche, accusé de l'attentat contre le musée juif de Bruxelles. A tout de suite.
Il est 7h07, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani, avec une audience très attendue et qui devrait être particulièrement tendue devant la cour d'assises de Bruxelles.
Oui, c'est là qu'on juge le djihadiste français Mehdi Nemmouche pour la tuerie du musée juif qui avait fait 4 morts. L'homme est également mis en examen en France pour avoir été le geôlier de 4 journalistes en Syrie, dont notre confrère d'Europe 1, Didier François. Ce sera la première fois qu'il reverra son tortionnaire. Nikos, vous l'aviez interrogé il y a un mois sur notre antenne. Un témoignage sidérant dont on réécoute un extrait.
Il faisait partie des gens qui torturaient les Syriens, les Irakiens, les prisonniers, qui gardaient, qui les amenaient aux toilettes, les battaient sur le chemin aller, sur le chemin retour. On l'a entendu pendant des nuits entières crier en français sur des Irakiens ou des Syriens qui, eux, parlaient que l'arabe et ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Mehdi Nemmouche avait un petit jeu qu'il aimait beaucoup, c'était s'amuser à nous écraser les ongles avec une pince en acier, donc ou pendant les déplacements sur les toilettes, de nous taser avec du matériel électrique, enfin voilà, nous électrocuter, donc voilà, ou de nous frapper. Moi, il m'avait frappé 40 fois au même endroit, sur le haut du crâne, avec une matraque plombée. Un des grands jeux qu'ils avaient, c'était de torturer les gens devant la porte de notre cellule. Et le matin, quand ils nous amenaient aux toilettes, il nous arrivait d'avoir des cadavres égorgés devant la porte, de marcher dans leur sang et d'aller jusqu'aux toilettes. C'est ça aussi, Mehdi Nemmouche.
Didier François qui va donc témoigner aujourd'hui au procès. Nicolas Hénin sera là également.
Alors que vous prenez votre petit déjeuner peut-être, que vous préparez à partir, vous faites aussi peut-être partie de nombreux Français qui ont l'habitude de prendre des compléments alimentaires à base de plantes.
Oui, ça ne serait pas étonnant puisque nous sommes le premier pays consommateur en Europe, mais il ne faut pas considérer que ces produits sont sans effet. Le rapport de l'Académie de pharmacie qui sera publié dans la journée rappelle que les risques sont tout à fait sous-évalués. Écoutez le reportage de Mélanie Gomez.
Dans cette pharmacie parisienne, ce qui est le plus demandé, c'est tout ce qui est à base de plantes qui permet de lutter contre la fatigue ou alors de mieux dormir. Les clients réclament du naturel, explique Ariane Valizadeh, qui dirige la pharmacie Mirabeau.
Les phrases qui ressortent, c'est « on veut pas quelque chose de chimique, donnez-nous quelque chose de naturel où il n'y aura pas d'effet secondaire ». On l'entend quotidiennement, oui, effectivement.
Et le problème avec les patients, c'est que ces gélules naturelles, dans leur tête, ça veut souvent dire « sans danger ». Sandra, 30 ans, les avale les yeux fermés.
Plus pour maigrir plutôt que pour la forme. Non, j'ai jamais pensé à regarder la composition.
Et pourtant, même avec les plantes, les huiles essentielles, il faut toujours demander conseil, explique Ariane Valizadeh, car le danger, il est parfois quand certaines plantes sont consommées en même temps qu'un médicament.
Un exemple, le millepertuis qui joue sur l'humeur, sur l'état émotionnel, donc parfois même la dépression. La personne prend la pilule en même temps que son millepertuis, la pilule ne va plus marcher. Une patiente qui me demande du millepertuis, je lui demande tout de suite, tout simplement si elle prend la pilule.
Enfin, dans ces gélules ou même cette tisane, bien souvent, il n'y a pas de notice, donc pas moyen de connaître les effets secondaires et parfois parfois, ils peuvent être graves. Un exemple, les compléments à base de soja peuvent altérer les effets de certains anticancéreux.
Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1.
Football maintenant, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, mais pas sans peine, hein, ma
ouais,
chère Hélène.
Victoire 3-0 contre le petit club de National de Villefranche, mais en passant par la case prolongation, même si c'était une équipe remaniée, Julien Froment, ça reste inquiétant à moins d'une semaine du match de Ligue des Champions contre Manchester United.
Ils ont fêté leur but comme si c'était une finale, et pourtant les Parisiens sont seulement venus à bout d'un club de 3e division. C'est dire si le PSG a été laborieux hier soir. Alors oui, la moitié des cadres a été laissée au repos par l'entraîneur Thomas Tuchel, mais les remplaçants n'ont pas marqué de points. Est-ce inquiétant quelques jours d'affronter Manchester United ? Non, selon le milieu de terrain Julian Draxler.
Non, c'est toujours difficile de jouer une équipe comme ça. On n'est pas la première équipe qui a eu des problèmes avec ça, et c'est pour ça. On est calme.
Plus inquiétant, la santé du milieu de terrain Marco Verratti, l'Italien, absent hier et encore blessé. Il n'est pas certain de pouvoir disputer le match de samedi contre Bordeaux. L'ultime répétition avant Manchester. Lyon, Julien Froment, Europe 1.
Ouais, PSG Manchester United, ce sera le 12 février à Old Trafford. Sachez également qu'hier soir, Rennes s'est qualifié pour les 8e en battant Lille 2-1.
Merci beaucoup, ma chère Hélène Zélani. C'est toujours un plaisir de commencer cette matinale avec vous. Parce que vous avez quelque chose à part, c'est vrai.
Oh, c'est tellement gentil.
Ça s'appelle le charme, le sérieux et le professionnalisme. Bon réveil à tous.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h11, la matinale d'Europe 1 se poursuit. C'est l'heure de retrouver Pierre Herbulot qui se trouve sur le terrain, Nikos.
Bonjour Pierre.
Bonjour Nikos.
Alors vous êtes où ce matin ?
Ce matin, Nikos, je suis au beau milieu d'une rue, à Paris, devant un groupe de policiers qui barrent l'accès d'un immeuble. Ses étages supérieurs sont en partie calcinés, la pluie fait remonter une odeur de cendre. Oui, je me trouve devant le 17 bis rue Erlanger, où 10 personnes sont mortes dans un incendie volontaire il y a 48 heures. Pour des raisons de sécurité, il n'y a plus aucun habitant. Ici, juste des pompiers qui fouillent encore les décombres. Mais de toute façon, Estelle, une sinistrée que j'ai rencontrée, n'a pas l'intention de retourner un jour dans son ancien appartement.
C'est un tel traumatisme, c'est quelque chose où on s'apprête à s'endormir, où on est endormi et on est réveillé par un incendie qui ravage littéralement tout ce qu'il y a autour de nous. Donc c'est vrai qu'il y a l'instinct de survie qui prend le dessus en premier lieu, mais après on est plus rationnel et on se dit on a vécu tellement l'horreur qu'on n'a pas du tout envie d'y retourner, quoi.
Voilà, vous l'avez dit, hein, 10 personnes ont trouvé la morte, une trentaine de blessés. Où est-ce qu'ont été relogés les autres habitants, Pierre ?
Ben ça dépend, certains sont allés vivre chez des proches, des amis, de la famille. La mairie a aussi mis en place un système d'hébergement d'urgence. Daniel Giazzi, la maire du 16e arrondissement, me racontait hier qu'ils étaient déjà nombreux à en bénéficier.
En gros, 30 familles à peu près, au moins pour les 4 à 5 nuits qui viennent. Vous savez, on attend au jour le jour parce qu'en fait, il y a des gens qui sortent de l'hôpital au fur et à mesure. On n'a pas une personne qui n'a pas été prise en charge, soit temporairement dans un hôtel, soit dans un logement. Et nous resterons ouverts, nous laisserons tous les services, y compris la nuit s'il le faut, mais nous n'avons pas eu de prise en charge à faire cette nuit, mais s'il le faut, nous resterons jusqu'à ce qu'on en ait besoin.
La mairie propose d'ailleurs aussi aux sinistrés des procédures accélérées pour refaire les papiers d'identité, souvent partis en fumée et pourtant indispensables pour les longues procédures de démarche d'assurance.
Toute la France a été émue hein, par cette tragédie. Est-ce que le quartier a été solidaire dans le 16e arrondissement de Paris ?
Ah oui, Nikos, on peut voir tout au long de la journée des habitants des immeubles voisins s'approcher, les bras chargés de dons en tout genre. Les associations aussi sont mobilisées, comme Françoise Charpentier du Lions Club de Paris.
Alors j'apporte quelques couvertures pour les sinistrés, si ça peut leur venir en aide, bien sûr. Et puis nous sommes prêts, notre association, l'Alliance Club, d'apporter d'autres des vêtements, d'autres choses, des vêtements, des kits de propreté, des jouets pour les enfants, enfin ce dont ils auront besoin. J'ai rendez-vous, là je vais voir les services de la mairie, leur demander ce dont ils ont besoin.
Alors c'est sûr, ça ne remplace pas les souvenirs, ça n'atténue pas la douleur, mais ça met quand même un peu de baume au cœur, m'a dit Inès, 20 ans, qui a pu récupérer de quoi s'habiller pour la semaine.
Décrivez-nous ce que vous voyez là, mon cher Pierre.
Ben là, c'est encore ces policiers, hein, Nikos, qui sont là. Il y a forcément quelques collègues journalistes de présent. Mais la nouveauté ce matin, c'est qu'on a pu s'approcher au plus près de l'immeuble. La barrière de sécurité, en fait, si vous voulez, a été levée. Mm-hmm. Et du coup, il y a surtout ce qui est marquant, c'est cette odeur de cendre qui reste, en fait, deux jours après l'incendie ici, rue Erlanger.
Tragique incendie qui a fait 10 morts et plus d'une trentaine de blessés en plein cœur de Paris et qui a bouleversé tout le pays. Merci Pierre Bulot.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
L'édito Écho, Nicolas Barré, avec ce rapport alarmiste de la Cour des comptes, mon cher Nico.
Oui, je vais vous parler de ce bulletin de notes de la Cour des comptes qui est assez sévère à l'égard d'Emmanuel Macron. Vous allez voir.
A tout de suite, 7h20, 6 mois après l'effondrement du viaduc de Gênes. Vous en souvenez, ça a été une tragédie. Eh bien, on a enquêté sur l'état des ponts en France. Une telle catastrophe pourrait-elle arriver chez vous ? Réponse dans quelques instants dans Europe 1 va plus loin.
Excellent réveil à tous sur Europe 1, il est 7h15. Il est 7h16, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
Emmanuel Macron dans une petite commune de Saône-et-Loire cet après-midi. Nouvelle étape du grand débat consacré aux jeunes, assez peu impliqués, il faut bien le dire, dans cette consultation pour le moment. Un corps remonté à la surface après la disparition du petit avion d'Emiliano Sala. L'autopsie permettra de savoir s'il s'agit du footballeur ou du pilote britannique. Ils vont se retrouver face à Mehdi Nemouche. On parle des anciens otages français du groupe État islamique en Syrie qui témoignent aujourd'hui au procès du djihadiste accusé de la tuerie du musée juif de Bruxelles. Et puis parmi eux, il y aura notre confrère, notre ami Didier François. Football, Rennes qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France face à Lille. Idem pour le Paris Saint-Germain, vainqueur de Villefranche. Et puis un mot de météo, pas mal de nuages et d'averses sur une bonne partie de la France. En revanche, soleil près de la Méditerranée, profitez-en. Température toujours douce pour la saison de 4 à 16 degrés cet après-midi.
Météo complète avec Laurent Cabrol juste avant 7h30.
Europe 1.
Et c'est l'heure de l'édito éco, Nikos.
L'édito éco, c'est avec Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Mon cher Nicolas, la Cour des comptes a publié son rapport annuel, vous l'avez dit. Et clairement, le gendarme des comptes publics n'attribue pas une bonne note au président de la République.
Oui, c'est un avertissement même. La Cour des comptes considère, je cite, que le scénario de finances publiques est préoccupant. Traduction, notre pays n'arrive toujours pas à redresser ses comptes publics et les 11 milliards d'euros venus grossir l'océan du déficit pour calmer la crise des gilets jaunes n'a fait qu'aggraver le problème. Alors, les magistrats de la Cour des comptes sont rarement en contact direct avec des occupants des ronds-points, mais à la fin de la journée, ils font les comptes.
Ah, ces mesures vont coûter cher, hein, parce que le déficit va de nouveau dépasser les fameux 3% du PIB.
Exactement. Alors soyons honnêtes, ça ne dit rien sans doute à personne, 3% du PIB. Mais retenez deux chiffres si l'on s'en tient à l'État, 400 milliards de dépenses, 100 milliards de déficit. Autrement dit, quand l'État dépense 100, eh bien, il doit emprunter 25. Et ce que nous dit au fond la Cour des comptes, c'est qu'il y a là quelque chose de structurel que l'on n'arrive pas à corriger année après année parce qu'on n'a pas de politique ambitieuse de réduction des dépenses publiques. Ça, c'est le premier avertissement de la Cour des comptes. Et puis le deuxième avertissement, eh bien, c'est que nous nous écartons aussi de la trajectoire des autres pays européens. On glisse dans le groupe des plus mauvais élèves, l'Italie, la Grèce. Et ça, c'est inquiétant au moment où la conjoncture se retourne.
À autre info, on dit que Pierre Moscovici, l'ancien ministre et actuel commissaire, va bientôt prendre la tête de la Cour des comptes. C'est toujours d'actualité ?
Alors tout à fait, oui. Après avoir surveillé les comptes des pays européens, dont la France, depuis sa position de commissaire européen, eh bien, Pierre Moscovici devrait le faire depuis la Cour des comptes. Alors, on relèvera qu'il s'est montré peu sévère à l'égard de la France depuis Bruxelles. Alors le sera-t-il davantage lorsqu'il sera à la Cour des comptes ? Ou est-il pressenti justement parce qu'il ne l'est pas trop ? Je laisse la question ouverte.
Oh, je suis certain que vous y répondrez dans les semaines à venir. Nicolas Barré pour l'édito Écho, tous les jours sur Europe 1.
Europe 1. Nikos Aliagas.
Il est 7h19, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin à l'état des ponts en France.
Et souvenez-vous, c'était il y a 6 mois, une scène impressionnante, surréaliste, violente. Le terrible effondrement du viaduc de Gênes qui avait fait 43 morts. Eh bien, la phase de démolition débute demain en Italie et de tels drames pourrait-il se produire en France ? C'est précisément pour répondre à cette question que le Sénat a lancé en octobre dernier une mission d'information avec un objectif très clair, avoir une cartographie, une carte de la France la plus précise possible de l'état de nos ponts. Bonjour Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Vous avez suivi, cher Aurélien, le travail de cette mission d'information.
Oui, et pour son premier déplacement, elle est allée voir le pont de Petite-Rosselle en Moselle. Alors, vous vous en souvenez certainement, Martin Fenot s'y était rendu en août dernier, quelques jours après la catastrophe de Gênes. Et Hervé Maurey, sénateur de l'Eure, qui est à la tête de cette mission, eh bien, il avait entendu le reportage d'Europe 1 et il a eu envie d'aller voir par lui-même ce pont en très mauvais état, des piliers qui s'effritent et même parfois des morceaux de béton qui tombent. Près de 1000 véhicules y circulent tous les jours, alors qu'il surplombe une piste cyclable, utilisée aussi par des promeneurs comme cette mère de famille.
Regardez, c'est ce qui tombe du pont. C'est des pavés même. S'il y a une grosse benne ou quoi que ce soit qui va passer, on peut voir très bien les vibrations, il y a des morceaux qui vont tomber. Ça tremble vraiment. C'est pour ça que je dis aux gosses d'attendre devant et on traverse tous les trois en même temps et vite, quoi.
Alors je me souviens de ce témoignage incroyable. Hein. C'était il y a 6 mois, c'est Martha Fenot qui avait fait le reportage. Depuis, Aurélien, rien n'a changé, vraiment ?
Non, presque rien. Hein. Le point positif, si l'on peut dire, c'est que l'état du pont ne s'est pas détérioré. Mais le point négatif, eh bien, c'est que les travaux nécessaires ne sont pas du tout financés. Imaginez, plus de 500 000 euros, c'est beaucoup trop pour le budget d'une commune de 6 500 habitants. Le maire de Petite-Rosselle, Gérard Mittelberger, demande à l'État d'intervenir.
C'est un pont qui fait l'objet, je dirais, d'une attention particulière depuis 2007. Avec une lente dégradation quand même de sa situation. Vous avez vu des éclats qui sont partis au niveau béton, de la ferraille qui est déjà bien corrodée, voire même absente à certains endroits. Alors la commission qui est venue, pour moi c'est une, du moins je l'espère, une aubaine, puisqu'ils voient le pont. En tout cas, j'ai un peu plus d'espoir qu'il y a un an par rapport donc à ce pont.
Alors en principe, les travaux devraient débuter cet été, mais cela va dépendre bien sûr d'une éventuelle prise en charge par l'État d'une grosse partie de ces 500 000 euros.
D'accord. Et ce type de pont clairement mauvais état, il y en a beaucoup en France ?
Alors le ministère des Transports avait fait un recensement un mois après l'effondrement du viaduc de Gênes. Par exemple, sur les 164 grands ponts routiers du pays, 23 nécessitaient des travaux rapides. Mais il n'y a pas de risque réel puisqu'ils sont identifiés, ils sont dans les radars des services de l'État. Ce qui n'est pas le cas des plus petits ponts comme celui de Petite-Rosselle. Et c'est un cas loin d'être isolé selon Hervé Maurey, le président de cette mission d'information.
De toute évidence, il y a aujourd'hui des ponts dont on est bien incapable de dire dans quel état ils sont. Moi, dans le département dont je suis élu, un matin, le maire a constaté qu'il manquait un pilier à un pont. La rivière avait naturellement, si je puis dire, emporté un pilier du pont. Et lors des échanges qu'on vient d'avoir avec un certain nombre de maires, et notamment des maires de petites communes, ils avaient la franchise de dire qu'ils n'avaient pas la moindre idée de l'état du pont dans leur commune. Et c'est en cela qu'il y a une vraie préoccupation. Contrairement au département ou à l'État, la plupart des communes n'ont pas les moyens humains, les compétences techniques et les moyens financiers d'assurer un suivi régulier des ponts.
Et dans le cadre de cette mission, une plateforme de consultation a été créée. Les élus locaux peuvent répondre à un questionnaire et faire remonter un maximum d'informations. Il y a déjà plus de 700 contributions en à peine 3 semaines et ce rapport est attendu en avril.
C'est beaucoup. Les plateformes de consultation, les débats, c'est décidément très tendance en ce moment et on suivra les conclusions de cette mission d'information sur l'état de nos ponts, c'est important. Merci Aurélien Fleureau pour cette enquête signée Europe 1. Va plus loin.
Et si vous souhaitez réagir, faites-le, appelez-nous au 3921 ou sur les réseaux sociaux également avec le hashtag Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
On reçoit quoi ce matin comme surprise, Anissa Mbida? Ou docteur Mbida,
docteur Mbida, oui, parce qu'on innove en médecine ce matin avec une toute nouvelle génération de stéthoscopes. Il faut dire qu'ils n'avaient pas beaucoup changé depuis le 19e siècle. Ça a changé. Il était temps.
Vous êtes remboursé par la Sécurité sociale ?
Cette technologie va l'être. C'est ça le plus important pour
à
nous
tout
autres.
De suite.
Excellent réveil à tous sur Europe 1. Il est 7h24, EDF partenaire de la transition énergétique vous présente l'innovation du jour et l'innovation, c'est avec Anissa Mbida, Nikos.
On est dans le médical ce matin, tout à l'heure à 8h15 on recevra la ministre de la Santé Agnès Buzyn et c'est vrai qu'il y a eu énormément d'avancées ces dernières années dans le matériel médical mais bizarrement, il y a un instrument qui est incontournable, le médecin l'a toujours sur lui et lui n'a pas évolué, c'est le stéthoscope. Ça y est, on verra peut-être une nouvelle génération de stéthoscopes arriver très, très rapidement.
Oui. Et ça va changer deux choses. Hein. Ils vont supprimer pas mal d'erreurs de diagnostic et il n'y aura plus besoin d'être un expert pour les utiliser. Parce qu'aujourd'hui, comment ça se passe ? Imaginez, j'ausculte Céline. Donc il faut d'abord que je pose la plaque en métal pile au bon endroit.
La plaque là, vous le scrutez avec la souris de l'ordinateur.
Oui, je joue. Donc il faut vraiment placer la petite plaque en métal au bon endroit. Ensuite, il faut écouter son cœur, écouter ses poumons, interpréter les bruits, savoir si c'est vraiment s'il y a un problème, si c'est de l'asthme, si c'est de la bronchite, c'est une arythmie cardiaque. Donc c'est vraiment très très compliqué. Tout ça alors qu'il peut y avoir énormément de bruit autour de soi en plus.
Ça, c'est de l'empirisme.
Voilà. Donc détecter les bruits, c'est compliqué. Eh bien, les nouveaux stéthoscopes, je vais y arriver, vont isoler les bruits des poumons et du cœur, les amplifier, pour que le médecin n'ait uniquement le son parfaitement clair.
On dirait le livre de la jungle.
Non, ça c'est un poumon, quelqu'un qui respire et qui est un peu malade. Comme ça, il fera le moins d'erreurs possible. Il y a même une option un peu comme l'application Shazam qui dira automatiquement « Eh, attention, là, ça sonne un peu comme une pneumonie. Il faudra vraiment passer des examens complémentaires. »
En fait, ils vont devenir totalement assistés, les médecins. Mais le stéthoscope va tout faire tout seul, c'est ça?
Bon, non, parce que le médecin donnera quand même le diagnostic toujours à la fin. C'est lui qui est responsable finalement. Et pour moi, c'est plutôt un peu comme la température. Vous voyez, la prendre à la main avec le revers de la main ou la prendre avec un thermomètre électronique. Là, c'est beaucoup plus précis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des erreurs de diagnostic sont dues à tous les bruits parasites qu'il peut y avoir dans la salle d'examen. Donc c'est une bonne chose de voir les stéthoscopes enfin arriver au 21e siècle grâce à deux start-up, une qui s'appelle Echo, qui analyse surtout le cœur, et Sonavi, qui vise plutôt les poumons. Et vous verrez, les fameux stéthoscopes, ils vont ressembler à des souris.
C'est vrai, vraiment, parce qu'en fait, c'est vrai, vous avez raison de dire qu'il a été inventé au 19e siècle par un Français, c'est René Laennec qui l'avait inventé. Et stéthoscope vient du grec, voilà, petite étymologie ce matin si vous réveillez. Stethos, le stéthos qui veut dire la poitrine, et scopène qui veut dire viser, observer, donc stéthoscope. Voilà. Et Anissé Mbida veut dire innovation sur Europe 1. Merci beaucoup, bonne journée.
En grec ?
Oui, absolument.
C'était l'innovation du jour avec EDF, mieux produire et mieux consommer chaque jour pour contribuer à la transition énergétique. Retrouvez dès maintenant plus d'informations sur edf.fr. Dans un instant, le journal de Céline Kalman, mais avant, on retrouve Laurent Capoil pour la météo.
Et Laurent Capoil veut dire précision et prévision.
Bon, voyez, pas mal, oui. Si je prenais le pouls de la France, je vais le faire. Je vais prendre le pouls de la France en vous disant qu'aujourd'hui, il faut retenir une chose. La pluie glisse vers le sud, donc vers des régions où hier, c'était pratiquement printanier. C'est-à-dire qu'hier, il a fait une journée très, très agréable dans le sud du pays. Et alors qu'il pleuvait sur la moitié nord, mais c'est un petit peu l'inverse, ou à peine l'inverse, parce que sur la moitié nord, ce ne sera pas forcément folichon. D'accord. Voyons les régions. Picardie, Île-de-France, Val-de-Loire, Champagne-Ardenne, Poitou-Charentes, Vendée. Quel temps fera-t-il chez vous, dans ces régions? On va dire qu'il va pleuvoir encore quelques minutes. Un quart d'heure, et les giboulées vont prendre le relais. Ensuite, des giboulées, nous en aurons sur la Bretagne, la Normandie, la Loire-Atlantique et le Nord. Des éclaircies tout de même dans ces contrées. Nous aurons certes des averses, mais aussi des éclaircies, et le soleil ne sera pas absent. Si vous habitez l'Alsace, la Franche-Comté, le Dijonais, la région lyonnaise, le Midi-Pyrénées et l'Auvergne, il pleuvra cet après-midi. Enfin, sur le bassin méditerranéen, c'est un voile d'altitude. Va-t-il neiger aujourd'hui? Oui, sur les Vosges, le Jura, les Alpes du Nord, le Massif central, mais pas beaucoup, quelques flocons et à 1000 mètres d'altitude.
Et le froid revient quand la semaine prochaine, c'est ça?
Alors le froid revient la semaine prochaine. Aujourd'hui, ce sera quand même un temps agréable, puisque nous avions
un stéthoscope.
On va sortir le thermomètre. 8 à Verdun, 9 à Nancy, 10 à Lille, 11 à La Rochelle et Paris, 12 à Nantes, 13 à Toulouse, 14 à Marseille et 16 degrés à Perpignan aujourd'hui.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
À suivre Nikos.
Jean-Michel Apathy à 7h40, on va parler du rapport annuel de la Cour des comptes, plutôt alarmant. 7h43, Axel de Tarlé, qui sont les plus gros contribuables français? Pas nécessairement ce qu'on croit. 7h45, on va parler de notre alimentation avec Brigitte Gauthier et Sébastien Arsac. Leur nom ne vous parle peut-être pas, mais ce sont les fondateurs de l'association Méthode Choc L214. Ils publient un livre qui fait froid dans le dos, La face cachée de nos assiettes. Ils sont mes invités dans un quart d'heure sur Europe 1. Excellent réveil à tous et bon appétit si vous êtes au petit-déj.
Nous sommes le jeudi 7 février, il est 7h30.
7h, 9h. Nico Saliagas sur Europe 1.
Elle a toujours le sourire. Et elle passe entre les mailles du filet de la grippe, toujours là, sur le pont Céline
Kalman. Pour l'instant, bonjour Nikos, bonjour à tous. L'épidémie de grippe qui justement s'intensifie en France ces derniers jours, et l'efficacité du vaccin est modérément efficace. Donc le vaccin, selon le bulletin hebdomadaire de l'Agence sanitaire Santé publique France, 1100 personnes ont succombé au virus depuis le 1er novembre. Les explications de Vincent Hénouf, responsable adjoint du Centre national des virus.
ce qu'on peut dire, c'est qu'en l'espace d'une semaine, il y a eu une forte augmentation du nombre de détections, du nombre de consultations, ça c'est certain. On peut juste comparer, ou en tous les cas, regarder ce qui s'était passé il y a deux ans avec le virus H1N2, il y avait eu 18 000 décès. Donc là, pour commenter ce chiffre, il faut vraiment attendre à la fin de l'épidémie pour pouvoir comparer avec d'autres épidémies.
Vincent Vénouf sur Europe 1. Une quinzaine de femmes porteuses de prothèses mammaires ont décidé de porter plainte pour demander des comptes aux autorités et aux fabricants. Information ce matin du journal Le Monde. Alors qu'aujourd'hui et demain se tiennent à l'Agence nationale du médicament une série d'auditions au sujet des implants texturés, des implants suspectés d'être à l'origine de cas de lymphome. Joël Manighetti fait partie des experts qui vont mener ces auditions.
J'aimerais bien qu'on supprime du marché ces implants texturés, mais je crains que ce ne soit très compliqué. Et puis surtout, obtenir qu'on fasse une réelle information à toutes les femmes avant l'implantation.
Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux femmes qui ont des implants texturés ?
Elles sont toutes un petit peu paniquées dans la mesure où elles craignent un petit peu de développer ce lymphome ou une autre complication dont on ne leur a pas parlé avant l'implantation. Elles aimeraient bien se les faire enlever, mais c'est pas si simple que ça parce que ça représente des sommes assez importantes. Certaines n'ont pas fini de rembourser leur premier prêt. Et puis, celles qui ont eu un cancer et qui ont été reconstruites avec ces implants, elles sont en principe prises en charge, mais ça reste toujours une intervention supplémentaire.
Joël Manighetti, jointe par Ève Roger.
Nouvelle révélation sur la femme de 40 ans suspectée d'être à l'origine de l'incendie meurtrier du 16e arrondissement de Paris.
Hier soir, le procureur de la République a précisé qu'elle avait été admise dans un établissement spécialisé à 13 reprises ces 10 dernières années. Il a également fourni un dernier bilan, 10 morts, 96 blessés, dont 8 pompiers, un blessé toujours entre la vie et la mort. 4 des victimes n'ont toujours pas été identifiées. Terrible pour les familles. Par ailleurs, l'un des rescapés de l'incendie va porter plainte ce matin contre la suspecte. Un corps repêché hier dans la carcasse de l'avion où avait pris place Emiliano Sala et son pilote. Le corps doit maintenant être identifié. Les tentatives de récupération de l'épave ont échoué.
Brexit maintenant, retour à la case Bruxelles pour Theresa May aujourd'hui.
Oui, la première ministre britannique veut renégocier l'accord, pas question pour les Européens. D'ailleurs, le président du Conseil, Donald Tusk, n'a pas caché son irritation hier à l'égard des partisans du Brexit.
Il reste 50 jours avant la sortie du Royaume-Uni. Je crois fermement que l'on peut trouver une solution commune et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y parvenir. Mais le sens des responsabilités exige de se préparer aussi à un possible fiasco. D'ailleurs, je me demande à quoi ressemble la place réservée en enfer pour ceux qui ont fait la promotion du Brexit sans un plan sérieux pour le réaliser dans de bonnes conditions.
Donald Tusk avec Isabelle Horry.
Une place spéciale en enfer, il a dit.
Oui, une place spéciale en enfer pour les partisans du Brexit, des propos qui font évidemment polémique du côté de nos voisins anglais.
Dire que les Brexiteurs méritent l'enfer, c'est très insultant et très bas de la part d'un président du Conseil européen. Lui et Juncker sont des tyrans, il y a même des gens qui les comparent à des nazis. Bon, moi personnellement, je n'irai pas jusque-là, mais ce sont juste des bureaucrates non élus à la tête de l'Union européenne.
C'est très arrogant de dire cela, mais il le paiera quand les négociations vont se durcir. Nous insulter comme ça après qu'on ait mis tant d'argent dans l'Union européenne, ça montre bien à quel genre de politicien on a affaire.
Un témoignage recueilli par Anaïs Cordoba pour Europe 1. Emmanuel Macron se rend en Saône-et-Loire. Aujourd'hui, le président va notamment échanger avec un millier de jeunes à propos du grand débat.
Et le gouvernement vend debout après le rejet du mariage entre Alstom et Siemens par Bruxelles.
Oui, Édouard Philippe a parlé d'une mauvaise décision. Bruxelles est complètement à côté de la plaque pour la secrétaire d'État à l'économie. Bruxelles qui estime que cette fusion aurait créé un géant en position de quasi-monopole. Henri Poupart-Lafarge, directeur d'Alstom, reconnaît quelques erreurs, mais dénonce cette décision.
Si on a un reproche à se faire, c'est d'avoir sous-estimé ce parti pris de la Commission européenne contre précisément l'établissement de ce qu'on appelle des champions européens, derrière lesquels elle voit constitution de monopole. Alors qu'il ne s'agit pas du tout de cela, l'industrie européenne est extrêmement éclatée, et donc c'est une tentative de regrouper un bout de cette industrie européenne de manière à faire un acteur plus solide au niveau global. Eh bien oui, la Commission européenne considère que ce n'est pas une voie à poursuivre, que cette décision est totalement incompréhensible, et effectivement, résulte dans un grand gâchis.
Henri Poupart-Lafarge avec Emmanuel Duteil sur Europe 1 dans l'interview Écho. Le rapport de la Cour des comptes sur l'état des finances publiques pour cette année, le secteur des services funéraires est pointé du doigt pour son manque de transparence et son coût exorbitant. C'est justement ce qu'a ressenti Caroline qui a dû gérer les obsèques de sa maman.
On a été choqués, je pense que c'est le mot, parce qu'on arrive tout chargé de sa peine et avec son envie, un, d'en finir et deux, de bien faire les choses. Et on avait les yeux qui s'écarquillaient face au prix qui était proposé. Et on a fini par avoir quelqu'un qui nous a dit « mais il faut avoir le respect du défunt quand même ». En nous faisant comprendre que faire baisser les prix comme ça, ça se faisait pas. Et nous, on demandait moins de prestations ou un bois moins cher ou pas un oreiller en satin. Et on avait l'impression que tout ce qu'on voulait de moins cher, c'était une honte, quoi, et que c'était une façon de pas montrer tout l'amour qu'on avait pu avoir pour le vivant quand on l'honorait pas quand il était mort, quoi. Et puis les forfaits, on sait jamais trop ce que ça recouvre. C'était pas toujours très clair ce qu'on entendait.
Caroline au micro de Jean-Jacques Herry pour Europe 1.
Cette semaine à l'école, c'est la troisième édition pour sensibiliser les jeunes au sport.
Oui,
plus de sport, faites du sport.
Oui, et paralympique, près d'un millier d'établissements participent à l'opération avec une résonance particulière, évidemment, en vue des JO de 2024. Écoutez les souvenirs de collégiens du président du comité d'organisation des Jeux 2024, Tony Estanguet.
Quand j'étais collégien, j'imaginais pas une seconde qu'un jour je ferais les Jeux Olympiques. C'était pas mon univers, je ne connaissais personne qui avait fait les Jeux Olympiques. Pour moi, cet événement était réservé à une élite, à des gens un peu hors normes. Et le message qu'on a envie de faire passer aujourd'hui, c'est que quand on travaille, quand on a un rêve, quand on se donne les moyens de progresser dans la vie, on peut faire des choses incroyables. Et les jeunes, aujourd'hui, ont un destin. Ils doivent être, quelque part, l'expression de cette ambition qu'on veut démontrer avec Paris 2024.
Anthony Estanguet avec Corinne Boulou pour Europe 1.
Vous auriez aimé être quelle championne, ouais. Céline Kalman?
Marathonienne, moi.
Mais vous êtes la marathonienne.
Non, j'en suis
de
très
l'info.
Loin. Mais ah
si,
oui, voilà,
évidemment.
Oui, on peut dire
Céline
ça comme
D'Acosta
ça.
Aussi.
Le doute pour les Parisiens, 6 jours du déplacement à Manchester en Ligue des Champions, le PSG s'est qualifié dans la douleur face à Villefranche hier soir en Coupe de France, 3-0 après les prolongations.
Le journal de 7h30 était présenté par Céline Kalman.
Pour réagir, appelez-nous 3921 ou alors réagissez avec le hashtag Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
C'est moi, bonjour à tous. À suivre, la politique avec Jean-Michel Apathy.
Bonjour Nikos. La Cour des comptes dit que l'état de nos finances est préoccupant et vous savez quoi, oui. Tout le monde s'en moque.
Ah bon? Vraiment, vous croyez?
À ce point, oui.
Axel de Tarlé, vous en manquez pas, vous?
Non, mais c'est vrai qu'elle le dit chaque année en même temps.
Ah bah, c'est tout le temps.
Moi, je vais vous parler, je vais vous répondre quelles sont les entreprises qui payent le plus d'impôts en France. Alors et la réponse est très surprenante. Bah, je vous la donne tout à l'heure.
Et suspense, dites-moi. Apathy Tarlé, le duo gagnant dans un instant sur Europe 1.
Bon réveil à tous, il est 7h37. Il est 7h38, Nikos Aliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
On l'a dit, la Cour des comptes a publié son rapport annuel hier sur l'état des finances publiques en France. La situation est préoccupante, nous dit-on. Et vous nous dites, vous, en revanche, Jean-Michel, que rien n'est vraiment nouveau et que chaque année, c'est toujours la même histoire.
Voilà,
c'est
exactement. La Cour des comptes nous dit, les finances, ça va pas. Alors, on l'écoute poliment, je sais même pas si on l'écoute d'ailleurs, mais rien ne change, tout le monde s'en moque.
Pourquoi culpabiliser?
Bah, bien sûr, hein, puisque de toute façon ça dure depuis la nuit des temps, on ne va pas s'embêter. Mais en fait, il faut quand même concrétiser un peu le problème. Expliquez. Qu'est-ce que ça veut dire? L'état des finances publiques est préoccupant. Ça veut dire que chaque année, on dépense plus qu'on ne gagne. Ou plus précisément encore, ça veut dire que la totalité de la richesse produite par les entreprises est inférieure à la somme dépensée chaque année par l'État. Et ça fait 45 ans que ça dure. Depuis 1974, ça n'est pas une fatalité, les Allemands c'est l'inverse. Mmh. L'État allemand dépense moins que la richesse produite aujourd'hui en Allemagne chaque année. Nous, depuis 45 ans, c'est l'inverse. Ça va durer 45 ans encore comme ça? Évidemment non. C'est un problème. Et l'information qu'il faut retenir, c'est que nous ne regardons pas ce problème, que nous sommes dans le déni. Et psychologiquement, c'est toujours très grave d'être dans le déni.
Qui? Les politiques? Les citoyens?
Les
qui...
citoyens.
Oui.
Les citoyens, nous n'admettons pas, c'est un trait culturel profond, que l'argent détermine les choix politiques. Charles de Gaulle, général de Gaulle, a synthétisé ça dans une formule. Il était président de la République, dans les années 60, la bourse baissait, et un jour il a dit « les choix de la France ne sont pas déterminés par la corbeille », parce qu'à l'époque, la corbeille, ça symbolisait la bourse. Et en disant ça, Charles de Gaulle exprimait quelque chose qui est partagé par la quasi-totalité des Français, au point que... Dans notre histoire récente, soit par le vote, soit par le jeu de la politique, nous avons écarté systématiquement les dirigeants politiques qui avaient le souci de remettre les finances publiques à l'équilibre. Raymond Barre, Michel Rocard, Jacques Delors et Alain Juppé. Et à l'inverse, par leur vote ou par notre vote, les Français ont mis à la tête de l'État des dirigeants objectivement dépensiers. François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Ils ont sacrément creusé la caisse, tous les trois.
Venons-en à Macron, justement.
Et d'autres. Alors, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est 2350 milliards de dettes. C'est 98% de la richesse produite chaque année. La dette des Allemands, c'est 64%. 35 points de moins que nous. Donc on peut mieux faire quand même. Pour gérer cette dette, nous avons accumulé les impôts et les taxes. Cette accumulation d'impôts et des taxes a provoqué la colère des Gilets jaunes. Pour voilà. calmer la colère des Gilets jaunes, on dépense de l'argent. 12 milliards d'argent non prévus dépensés déjà en décembre et peut-être plus à la fin du grand débat. Et pour financer ces dépenses imprévues, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des impôts et des taxes qui eux-mêmes vont alimenter ou continuer d'alimenter la colère. C'est un cercle mortifère. C'est un cercle qui un jour va nous faire mourir. Au sens littéral du terme, ça n'est pas durable. Ça ne durera pas 45 ans comme ça. Donc on ferait mieux d'écouter la Cour des comptes, de prendre conscience du problème et d'avoir envie tous ensemble de le régler avant qu'on en crève. Ça me semble plutôt du bon sens.
Donc le Gaulois n'est pas seulement réfractaire, il est victime d'un système mortifère, vous nous dites ce matin.
Exactement, le Gaulois, il ferait mieux de changer un peu de musique, tiens.
Axel de Tarlet, vous êtes d'accord avec ce que dit Jean-Michel Apathy?
Tout à fait, sur les politiques, quand on dépense, on est bâtisseur, hein. Les maires bâtisseurs à Montpellier, bon bah résultat, on est surendetté à la fin. Et quand on veut faire des économies, là on a une gestion comptable. Vous vous souvenez d'Alain Juppé à qui on reprochait d'avoir une vision comptable de la sécurité sociale. Résultat, elle est en déficit depuis des années.
Mais oui. Qui paye le plus d'impôts en France?
Voilà, c'est pour, parce que du coup, pour rembourser, il faut payer les impôts.
Il faut payer, oui, qui paye le plus d'impôts, Axel?
Alors justement, vous savez que c'est au cœur des débats, ça. Est-ce que les grandes entreprises payent des impôts en France? Alors le magazine L'Obs, avec notre consoeur Sophie Fay, a eu l'idée d'écrire à toutes les entreprises du CAC 40 en leur demandant « Faites-moi la liste de tout ce que vous payez comme impôts et taxes en France. » Donc vous me listez les cotisations, les charges sociales, l'impôt sur les bénéfices, impôts de production, les taxes, il y en a une ribambelle. C'est que Carrefour, donc, a fait le travail, ils ont trouvé 80, ils payaient 80 différentes, rien qu'en taxes, 80 différentes taxes en France. Donc vous additionnez le tout et vous avez le hit parade des plus gros contribuables du pays. Alors le résultat est très surprenant parce qu'arrive en tête de ce classement les entreprises que nous adorons détester en France. Et à l'inverse, celles qui payent le moins d'impôts, c'est très injuste, ce sont les entreprises chouchou des Français. Donc le classement, quelles sont les entreprises qui payent le plus d'impôts en France? Allez-y. Réponse, les banques. Et de loin, le plus gros contribuable du pays, c'est le Crédit Agricole qui paye près de 6 milliards d'euros d'impôts chaque année. À lui tout seul, le Crédit Agricole peut quasiment financer le budget de la justice. Deuxième plus gros contribuable du pays, BNP Paribas, plus de 4 milliards d'euros d'impôts. Société Générale, plus de 3 milliards. Et alors, à côté de ces trois banques, il y a un quatrième larron, et c'est une entreprise que, alors là, pour le coup, que nous adorons détester, ici même, on a fait une chronique ravageuse contre eux, c'est Vinci, les autoroutes, qui payent près de 4 milliards d'euros et d'impôts et charges. Voilà, les péages, etc. Alors la question, pourquoi est-ce que ces entreprises que nous adorons détester arrivent-elles en tête de ce classement? Eh bien parce qu'elles ont beaucoup de salariés en France. Vinci, c'est surtout du BTP, donc c'est plus de 100 000 salariés sur les chantiers en France. Quant aux banques, elles réalisent l'essentiel de leur activité, les deux tiers, trois quarts en France, contrairement aux autres entreprises du CAC 40 qui, elles, réalisent l'essentiel de leur activité à l'étranger.
Donnez-moi des noms. Quelles sont les entreprises du CAC 40 qui payent peu d'impôts en France?
Alors, je vous l'avais dit, c'est nos chouchous. Bah, dans celles qui payent peu en France, vous avez Michelin, qui est l'entreprise préférée des Français. Vous avez Air Liquide, vous avez Danone, vous avez Accor. Pourquoi? Bah, Danone, par exemple, réalise 90% de ses ventes à l'étranger. Donc, bah oui, il paye 90% de ses impôts à l'étranger. Mais au final, l'enquête remarque que les 33 plus grosses entreprises de France payent quand même à elles seules 11% des impôts et charges dans le pays. C'est pas si mal. Et puis maintenant, quand on payera des agios à la banque, on pourra toujours se consoler en se disant que tout ne va pas dans la poche du banquier, que l'État en récupère une bonne partie pour financer donc la justice.
C'est une consolation, ça.
Voilà.
analyse très instructive ce matin avec vous, Axel.